Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'évangile de Saint Jean. Nous arrivons à l'étude numéro 4 et nous pourrons donner comme titre le festin de noces. Chers amis, Jésus est venu sur la terre, nous l'avons vu, parce que notre monde va assez mal. J'aimerais me pencher à présent sur la manière dont la restauration est possible. Plus précisément, comment Jésus est-il venu l'accomplir? La nouvelle rencontre, elle est liée à un repas de noces. D'après Saint Jean chapitre 2, Jésus, sa mère et plusieurs de ses disciples sont invités à un banquet dans la localité de Cana. Les sociétés antiques et traditionnelles mettaient beaucoup plus l'accent sur la famille et la communauté que sur l'individu, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce n'étaient pas les réalisations personnelles qui donnaient un sens à l'existence, mais c'était la capacité d'être un bon époux ou une bonne épouse, un bon fils ou une bonne fille, un bon père ou une bonne mère. Le mariage ne visait pas principalement le bonheur des deux conjoints, mais il s'agissait plutôt de souder la communauté et d'éduquer la génération suivante. Autrement dit, son but était bien entendu le bien commun. Plus les familles d'une ville étaient grandes, fortes et nombreuses, mieux l'économie se portait, ainsi que la sécurité militaire. Elle était garantie et la population vivait donc dans la prospérité. Par conséquent, les mariages et les repas de noces avaient une importance beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. C'était, si vous voulez bien, l'occasion d'une fête publique rassemblant toutes la localité, puisqu'il concernait l'ensemble de la communauté et pas simplement le couple. C'était également le plus grand événement dans la vie des deux conjoints. C'était le jour où ils atteignaient leur majorité et devenaient des adultes membres à part entière de la société. Il n'est donc pas surprenant que les repas de noces aient duré au moins une semaine. Sachant cela, nous percevons l'ampleur du désastre dans notre texte, car un jour ou deux seulement, et je dis bien un jour ou deux seulement après le repas des festivités, voilà que la famille se retrouve à court de vin. C'était l'élément le plus important d'un festin antique. La fête est pour ainsi dire terminée. Bien plus que d'une simple entorse à l'étiquette, il s'agit d'une véritable catastrophe sociale et psychologique dans une culture traditionnelle de l'honneur et de la honte. C'est aussi l'occasion d'un conflit entre Jésus et sa mère. Il est dit que le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, malheureusement, la mère de Jésus lui dit ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Et je comprends que vous allez tiquer, mais on verra cela tout à l'heure. » Jésus lui a répondu, « Mais que veux-tu, que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 100 litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-les en l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau qui était changée en vin, mais ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient très bien, il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut donc, à Cana en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Saint Jean, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11. La clé pour comprendre cet événement réside dans le dernier verset. Il s'agit du premier signe miraculeux. Saint Jean, l'évangéliste, ne parle pas d'un simple miracle, mais d'un signe. Un signe est un symbole, c'est un élément qui renvoie à quelque chose d'autre. Jésus n'avait pas à exercer sa puissance dans cette situation, mais il l'a fait. Et c'est devenu le premier signe par lequel il a manifesté sa gloire, sa vraie identité aux autres. Qu'il ait fait de cette façon-là revêt un grand intérêt. C'est le tout début de la carrière de Jésus, de son ministère public. Imaginez que vous soyez un candidat à une élection, un entrepreneur lançant une marque ou un musicien sortant son premier vrai disque. Vous planifierez avec grand soin votre première apparition publique. Chaque détail fera l'objet, évidemment, d'une attention particulière, minutieuse, de telle sorte que l'ensemble de vos paroles et de vos gestes transmettent un message conforme à l'image que vous souhaitez de donner. Pensez maintenant à cette carte de visite en rapport avec Jésus. Personne n'est à l'agonie, personne n'est sous l'emprise d'un démon, personne ne meurt de faim. Pourquoi décider de se présenter comme celui qui permet à la fête de continuer? Pourquoi, dans le cadre de son premier miracle, un miracle significatif d'après Saint Jean, pourquoi employer ses pouvoirs surnaturels pour créer des quantités de bon vin et faire ainsi durer les festivités? Pourquoi donc faire tout cela? Chers amis, l'évangile de Saint Jean n'est pas une œuvre de fiction, mais elle a été écrite par un témoin oculaire réfléchi et éclairé des actes et de la pensée de Jésus. Parmi les nombreuses raisons qui le poussent à cette conclusion, figure le récit du premier miracle. Pourquoi imaginer ? Comme signe inaugural de la grande carrière de Jésus, la solution miraculeuse apportée à une simple négligence d'ordre social. Personne n'aurait forgé une telle invention. Qu'apporte donc Jésus dans cette situation et la nôtre ? Notez Saint Jean chapitre 2 verset 9. En Saint Jean chapitre 2 verset 9, il est mentionné que l'organisateur du repas c'est essentiellement le maître de cérémonie, celui qui veille au bon déroulement de la fête. C'était donc à lui d'inviter les convives à la célébration et de s'assurer que les conditions soient réunies pour cela. C'était à lui de veiller à ce que la fête soit réussie. Lorsque il vient à sa rescousse en transformant l'eau en vin, Jésus dit en quelque sorte, c'est moi qui suis le véritable maître du banquet, c'est moi le seigneur de la fête. Attendez, objectera quelqu'un. Moi je croyais que Jésus était venu pour s'humilier, renoncer à sa gloire, être rejeté et être cloué sur la croix. Oui, c'est vrai bien sûr, mais d'une certaine façon Jésus place cette perte à cette souffrance terrible dans leur contexte. Oui, je vais souffrir. Oui, il y aura renoncement à soi. Oui, il y aura un sacrifice pour moi d'abord et ensuite pour mes disciples. Mais tout cela n'est qu'un moyen de parvenir à une fin, c'est-à-dire la joie des festivités. Le but réel, écoutez bien, c'est la résurrection, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est la fin de tout le mal, de la mort et des larmes. Alléluia. Ceux qui croient en moi seront dès maintenant pénétrés de cette joie. Ils en auront un avant-goût. Cela pourra les consoler et les rafraîchir en profondeur dans les moments les plus difficiles et les plus arides. C'est en fin de compte ce que je suis venu vous apporter. Oui, voilà pourquoi il s'agit de mon premier signe. La Sainte Bible a souvent recours au langage des sens pour parler du salut divin et de Dieu lui-même. Au psaume chapitre 34, verset 9, le roi David adresse cette invitation aux Israélites. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Ne savaient-ils pas déjà que leur Dieu est bon? Si, mais en les incitant à le goûter, il veut qu'ils dépassent le stade du simple accord mental avec une affirmation aussi vraie soit-elle. Bien sûr, Vous savez que le Seigneur est bon, mais je veux que vous le goûtiez. Il s'agit donc d'en faire l'expérience profonde. Savez-vous ce que la Bible dit à propos du dernier jour, à la fin des temps? Jésus y pensait lors des noces de Cana. Oui, notez Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 8. Là, il est annoncé que sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a déclaré. D'après la Sainte Bible entière, c'est ce que Jésus va accomplir à la fin. Nous n'allons pas être amenés loin de ce monde vers le paradis. C'est le ciel qui, au contraire, va descendre à la fin des temps et renouveler le monde. Chaque larme sera séché. Tout ce qui est triste va se révéler faux. Voilà ce qui est venu faire, ce qu'il est venu faire, notre Sauveur et Seigneur. Je suis convaincu, comme un enfant, que la souffrance disparaîtra, que la comédie révoltante des contradictions humaines s'évanouira comme un piteux mirage, comme la manifestation vile de l'impuissance mesquine, qu'à la fin du drame, quand apparaîtra l'harmonie éternelle, une révélation se produira, précieuse au point d'attendrir tous nos cœurs, tous les cœurs de ce monde, de calmer toutes les indignations, de racheter tous les crimes et le sang versé, de sorte qu'on pourra non seulement pardonner, mais justifier tout ce qui s'est passé sur la terre. En effet, je crois qu'au bout du compte, la réalité sera si étonnante, la joie si incroyable, l'épanouissement si extraordinaire, que la vie la plus misérable aura l'apparence d'une nuit à passer dans une mauvaise auberge. Jésus-Christ déclare : Je suis le Seigneur de la fête. Finalement, je viendrai pour apporter la joie. C'est la raison pour laquelle ma carte de visite, mon premier miracle, consiste à ramener le rire pour chacun. Cela nous indique ce qu'il est venu apporter. Mais pourquoi devait-il l'apporter? Permettez-moi d'attirer votre attention sur un autre détail de ce miracle. Il sauve ces jeunes époux de leur bourde, car ils ont commis une bourde. Mais comment s'y prend-il? Eh bien, il fait remplir des jarres utilisées par les Juifs pour la purification rituelle. le judaïsme enraciné dans l'Ancien Testament contenait un grand nombre de rites et de règles, avec de multiples ablutions et purifications physiques, tout cela dans le but de faire ressortir notre besoin spirituel. C'était donc une manière d'affirmer haut et fort « Dieu est saint et parfait, et nous, nous sommes imparfaits. » Pour que nous puissions entrer en relation avec lui, il doit y avoir expiation, il doit y avoir purification et pardon. Nous ne pouvons tout simplement pas nous présenter tel quel devant lui. Ainsi les Juifs disposaient de nombreux rites de purification avant les sacrifices sanglants. C'était à quoi servaient habituellement ces jarres. Rappelons que le manque de vin était plus qu'une simple source d'embarras. Imaginez un peu à quel point l'humiliation peut être grande si vous avez reçu du monde et ainsi déçu votre famille dans une culture qui est basée sur l'honneur et la honte. Nous avons donc de la peine à comprendre une telle dynamique dans notre Occident individualiste, mais ces jeunes gens avaient à affronter le déshonneur public et ainsi aussi la culpabilité. Or Jésus, il leur épargne tout cela. De plus, en employant les jarres habituellement utilisées pour les purifications, il affirme être venu dans le monde pour accomplir réellement ce que les lois cérémonielles et sacrificielles ne faisaient que symboliser. Comment est-ce possible? Au chapitre 2, j'ai évoqué la notion de péché. Je sais que le mot donne de l'urticaire à certains, et il est naturel d'être mal à l'aise lorsque un pasteur en parle, mais nous ne pouvons pas saisir la joie que Jésus vient apporter, si nous ne comprenons pas ce que est le péché. Nous devons prendre conscience que nous sommes salis par lui, que nous avons besoin d'en être purifiés, que nous avons un problème de culpabilité et de honte, et que nous devons en être libérés sans nous bercer d'illusions en croyant qu'il n'existe tout simplement pas. Permettez-moi de m'exprimer de façon directe et personnelle au plus profond de vous-même. Vous savez très bien que quelque chose cloche. Pourquoi travaillez-vous si dur? Pourquoi devez-vous tout le temps avoir raison? Pourquoi vous souciez-vous autant de votre apparence? Parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche et que vous essayez de vous purifier vous-même, c'est-à-dire de faire vos preuves et de masquer ainsi le problème. Vous souvenez-vous du premier film de Rocky, juste avant son grand combat contre le champion poids lourd Apollo Creed, le héros, étendu à côté de sa petite amie, il déclare qu'il n'a pas besoin de remporter le combat en réalité, mais de simplement de rester sur ses jambes jusqu'à la fin et de tenir la distance. Il explique que ça n'a aucune importance si je perds ce match. Tout ce que je veux, c'est de tenir la distance. Personne n'a pu aller jusqu'au bout avec Creed. Si moi, je tiens la distance, tu vois, si à la fin du match, je suis encore debout, alors je saurai que je n'étais pas un minable comme les autres. Voici ce que je suggère, une des raisons pour lesquelles vous avez tous ces rêves de travail acharné qui vous permettra de sauver les apparences, de réussir, d'atteindre vos objectifs, c'est que vous essayez de prouver, d'abord à vous-même et à tout le monde, même aux personnes qui ne font plus partie de votre entourage, que vous n'êtes plus un minable. Nous ne voulons pas seulement réussir, nous ne voulons pas seulement apporter une contribution à la société, nous ne voulons pas seulement laisser notre empreinte au plus profond de nous-mêmes, nous sentons ou même nous savons que d'une certaine façon, nous sommes des minables. Pour employer des images bibliques, nous pouvons retourner à la Genèse au chapitre 3, lorsque Adam et Ève consomment le fruit interdit, se retournant de Dieu et se sentant immédiatement nus. Donc, ils se sont tout à coup retrouvés devant Dieu, tout nus. Et là, ils sentent qu'ils doivent se couvrir, qu'ils ne peuvent même pas laisser Dieu les voir ainsi. Et ils se couvrent de feuilles de figuier. Peut-être votre réussite n'est-elle qu'une grande feuille de figuier, va savoir. En fin de compte, elle ne suffira jamais pour masquer ce qui cloche chez vous. Je suis fermement convaincu que nous sommes tous conscients de notre besoin d'être purifiés, même ceux que la notion de péché met très, très mal à l'aise. Il peut paraître indélicat de le dire aussi crûment, mais il y a plus d'égocentrisme et de mal en nous que nous ne voulons bien le croire. Il y a des quantités de choses en nous que nous aimerions nier sur le plan théologique et philosophique. Je suis humaniste. Je ne crois pas que les êtres humains soit fondamentalement mauvais, direz-vous peut-être. Mais, si vous vivez assez longtemps et que vous vous montrez honnête avec vous-même, vous découvrirez dans votre cœur des éléments susceptibles de vous piquer et même de vous choquer. Vous remarquerez, oh, je ne savais pas que j'étais capable d'un tel comportement. Oui, chers amis, nous sommes tous conscients de notre besoin d'être purifiés. Le problème en réalité, c'est que nous en sommes tous capables. Voyez-vous, Adolf Eichmann était un des nazis responsables de la solution finale. Après la Seconde Guerre mondiale, il a trouvé refuge en Amérique du Sud, où il a été capturé en 1960 et amené en Israël pour un procès. Il a été jugé, déclaré coupable et exécuté. Son procès a été marqué par un incident très intéressant. Il fallait trouver des témoins qu'il avait vus commettre les horribles crimes contre l'humanité dont on l'accusait, qu'il avait vu participer aux atrocités dans les camps de la mort. Et l'un d'eux était un certain Yehiel Denur. Je répète, il s'appelait Yehiel Denur. Lorsque il est venu à la barre, il a regardé Eichmann dans sa cage en verre et s'est aussitôt effondré sur le sol en pleurant. Dans le tohu-bohu qui a suivi, le juge frappait sans cesse avec son maillet pour établir l'ordre. Un peu plus tard, Denur a été interviewé par Mike Wallace. Celui-ci lui a montré l'enregistrement vidéo de l'incident et lui a demandé pourquoi cela était arrivé. Avait-il été submergé par des souvenirs trop douloureux ou par la haine? Était-ce pour cette raison qu'il s'était écroulé? Écoutez bien la suite. Yehiel Denur a répondu par la négative avant d'ajouter quelque chose qui a probablement choqué ce journaliste américain et devrait heurter presque tous les non-croyants occidentaux. Il avait été bouleversé en se rendant compte que Eichmann n'était pas une sorte de démon, mais un être humain tout à fait ordinaire. Il a dit « J'ai eu peur, peur de moi-même, car j'ai vu que j'étais peut-être capable de faire cela, exactement comme lui. » Vous pouvez prétendre que les nazis étaient des sous-hommes, qu'ils n'étaient pas comme nous et que nous ne sommes pas capables de commettre les atrocités qu'ils ont commises. Cependant, cette façon de voir pose d'importants problèmes. Ce que je trouve le plus effrayant dans ce chapitre de notre histoire, ce ne sont pas les quelques horribles responsables, mais c'est la complicité de la majorité dans une société qui a produit une grande partie du savoir, des sciences et de la culture du monde. Il est donc impossible de faire une croix sur cette période en attribuant son honneur simplement aux agissements du monstre isolé. De plus, de traiter les nazis de sous-hommes ou prétendre qu'ils n'étaient pas comme nous, ça c'est précisément reproduire le raisonnement qui les a amenés, eux, à commettre leurs inimaginables atrocités. Car eux aussi pensaient que certaines catégories de gens étaient des sous-hommes et étaient beaucoup inférieurs à eux. Êtes-vous toujours prêt à nier notre humanité commune? Voulez-vous prendre la même direction qu'eux? La grande majorité des nazis et les millions de gens qui ont été dirigés par eux n'étaient pas des monstres dotés de crocs. Par exemple, Hannah Arendt, qui a bien observé Adolf Eichmann durant le procès, elle a déclaré au New Yorker qu'il n'avait absolument rien d'un psychopathe, qu'il n'affichait aucune haine ni colère, qu'il était parfaitement calme. C'était un homme tout à fait ordinaire qui avait voulu faire avancer sa carrière. C'est ce qu'elle a appelé la banalité du mal. Vous avez entendu, la banalité du mal. Donc le mal se tapit dans le cœur de tous les êtres humains ordinaires. Je répète, le mal se tapit dans le cœur de tous les êtres humains ordinaires. De fait, il serait plus honnête de dire « Je suis d'une certaine manière pareil à ceux qui ont commis des actes terribles, je suis fait du même matériau humain, il doit y avoir au plus profond de moi quelque chose qui est capable d'une grande cruauté et d'un grand égocentrisme. C'est juste que je ne veux pas le voir. Jésus, bien sûr, il sait que ce quelque chose existe bel et bien. Beaucoup crurent en Jésus et ils en voyaient en lui les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Notez Saint Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Même si l'égocentrisme et le péché présent dans notre cœur, n'ont pas conduit la plupart d'entre nous à des gestes manifestes de cruauté, ils ont fait souffrir notre entourage et nous ont empêchés de servir Dieu, oui, celui qui nous a créés et à qui nous devons tout. Jésus est venu nous laver de tout cela. Il est venu nous purifier de ce qui est mal chez nous du point de vue spirituel. Chers amis, comment apporte-t-il Jésus cette fameuse guérison? Comment l'apporte-t-il cette purification et ce pardon? Eh bien, nous arrivons ici, on peut bien le dire, au cœur narratif du passage. Marie, elle signale le manque de vin à Jésus. Il est possible qu'elle lui en parle en même temps que à d'autres, mais c'est peu probable. Sans peut-être comprendre exactement qui est vraiment son fils, elle sait, Marie, que ce n'est pas un homme ordinaire. Elle se rappelle forcément les anges. Comment pourrait-elle les oublier? Nous ne savons pas grand-chose d'autre sur ce qu'elle a entendu de ces anges ou qu'elle a vu depuis sa naissance. Lorsque elle lui mentionne le problème, il répond « Que me veux-tu, femme ?» ou plus littéralement « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ?» Oui, vous allez dire quelle façon froide de parler à sa mère. Ce genre d'impression est lié au problème de la traduction dans notre langue. Notre langue qui manque beaucoup de nuances par rapport à la formulation originale. Que se passe-t-il? Le reste des évangiles nous montre un Jésus qui ne s'irrite pas facilement et qui ne prononce pas des paroles de regret ensuite, même sous la torture plus tard. Il ne laisse pas échapper un seul mot dur et ne s'exprime pas sur un ton hargneux. Il ne s'agit donc pas simplement d'un accès de mauvaise humeur. Quelque chose lui pèse lourdement. Il explique lui-même de quoi il s'agit. Il dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Si vous lisez attentivement l'évangile de Saint Jean, vous découvrirez que Jésus évoque son heure à plusieurs autres occasions. Chaque fois, il renvoie au moment de sa mort. Son heure, c'est le moment où il mourra sur la croix. Sachant cela, voyez-vous maintenant l'apparent manque de logique dans cet échange. Marie dit, quel désastre! Ils n'ont plus de vin. Jésus répond, pourquoi me dis-tu cela? Je ne suis pas prêt à mourir. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est très peu probable que Marie comprenne ce que le mot « mon heure » veut dire dans la bouche de son fils. Tout ce qu'elle sait, c'est que sa réaction à un simple constat est apparemment brutal, énigmatique et un tantinet choquant. Mais elle n'argumente pas, elle ne lui demande pas de s'expliquer et elle ne s'éloigne pas prise de dégoût comme le feraient la plupart des parents. Non, elle se rappelle ce que les anges lui ont dit. Et c'est pourquoi elle va trouver les serviteurs qui s'occupe des invités, et elle leur dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Au fait, que pense Jésus? Pourquoi établit-il un lien entre une simple demande de vin et l'heure de sa mort? Oui, pourquoi? Il faut ici penser au symbolisme. Le miracle est un signe de ce qu'il est venu accomplir. Que représente le vin dans son esprit? Que manque-t-il à la scène pour transformer la honte en joie? Nous le savons parce que c'est dans les jarres servant à la purification, qu'il fait apparaître le vin. Lorsque Jésus prononce cette phrase énigmatique, c'est comme s'il regardait au loin, au-delà de sa mère, des mariés et de toute la scène de noces. Il voit autre chose. Il se dit, écoutez bien la suite. Il se dit, oui, je peux, moi, apporter une joie festive à ce monde. Je peux laver l'humanité de sa culpabilité et de sa honte. Oui, je suis venu dans le monde pour apporter de la joie, mais, ma chère maman, je devrais, hélas, mourir pour cela. Dans l'Ancien Testament, Dieu montre qu'il veut, avec les siens, un lien plus étroit que celui d'un roi avec ses sujets. Le lien d'un mari avec sa femme. Dieu veut entretenir avec nous une relation d'amour aussi profonde que celle qui unit deux conjoints. Très souvent, dans les Écritures hébraïques, Dieu se présente comme l'époux d'Israël. Dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, lorsque ses disciples sont critiqués parce qu'ils ne jeûnent pas, Jésus rétorque : les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Saint Marc chapitre 2 verset 19. Avez-vous remarqué ? Jésus se présente lui-même comme l'époux et il le fait en étant pleinement conscient que d'après les Écritures saintes, seul le Créateur, le Dieu de l'univers, est l'époux de son peuple. En tant qu'écrivain, Saint Jean exploite encore ce thème dans l'Apocalypse à la fin du Nouveau Testament. Il décrit ainsi la fin de l'histoire. Écoutez, s'il vous plaît. Il dit « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Notez Apocalypse chapitre 21, verset 2. Avez-vous bien entendu ? Il est dit, j'ai vu, descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Apocalypse 21, verset 2. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 9. En d'autres termes, la fin des temps sera marquée par un festin qui mettra fin à tous les autres. Il ne s'agit pas d'un simple banquet, mais d'un festin de noces célébrant l'union intime et permanente de gens qui s'aiment. Oui, de tous ceux nés de nouveau qui s'aiment. Et c'est sur cela que l'histoire débouche. C'est ce que Jésus est venu accomplir. Nous qui sommes l'épouse, nous qui sommes les gens que Jésus a aimés, nous serons enfin unis à lui. Même que, comme moi, j'ai été un pécheur vilain et que j'avais le droit que Dieu me laisse tomber, mais il ne l'a pas fait. Eh bien, l'amour le plus intense d'un couple marié sur la terre ne constitue qu'un pâle reflet, on peut dire un écho extrêmement faible de cette future réalité cosmique. Voyez-vous, Jésus est imprégné de l'Ancien Testament et il se présente comme le grand époux, même s'il n'a pas encore accompli sa tâche. Il est donc en train de participer à des noces. À quoi pensent les célibataires quand ils assistent à un mariage avec souvent un regard étrange en distant? Eh bien, même qu'ils ont ce regard distant, ils regardent bien au-delà des époux, de ces époux qui se tiennent devant eux, et se demandent à quoi ressemblera peut-être le jour de leur propre mariage. C'est ce que Jésus a fait. Jésus pense à son propre mariage avec une joie infinie mêlée d'un profond sentiment d'horreur. Reformulons, si vous voulez bien, ce qu'il dit. Il dit « Mère, maman, pour que mon peuple puisse tomber dans mes bras, eh bien je vais devoir mourir pour eux. Pour que mon peuple puisse boire la coupe de la joie et prendre part au festin, je vais devoir boire la coupe de la justice. Je vais devoir boire la punition et la mort. » Voici donc la réponse à notre dernière question. Comment Jésus nous apporte-t-il la joie? En perdant toute la sienne. C'est donc en perdant sa propre joie, en quittant son existence céleste dans l'intimité de son Père, en menant une vie de solitaire et d'incompris, en étant cloué sur une croix et en mourant à notre place, à ma place. Beaucoup disent « Oh, je n'aime pas l'Église et je n'accepte pas la doctrine chrétienne. Je ne crois pas aux flammes de l'enfer. Je ne crois pas à la colère de Dieu, à l'expiation par le sang et à toutes ces choses-là. Mais j'aime quand même Jésus. » Regardez à quel point il aime les autres, c'est-à-dire tous, et comment il se donne aux autres. Si les êtres humains l'imitaient et suivaient son enseignement, eh bien le monde serait meilleur. Chers amis, ce point de vue pose donc de nombreux et importants problèmes. Si Jésus pensait à sa mort alors qu'il se trouvait à un festin de noces, cela signifie qu'il y pensait presque toujours. S'il est venu sur la terre, ce n'est pas principalement pour simplement donner le bon exemple. Et j'en suis reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'il est trop bon. Il est si parfait que son exemple est écrasant. Si vous cherchez vraiment et sérieusement à faire de lui un modèle de vie, en prêtant attention aux détails de sa manière d'être et d'agir, vous allez vous décourager. Il nous dépasse, oh oui, de très loin, et de vous comparer à lui, cela aura pour seul effet de réduire au désespoir toutes vos aspirations à l'excellence morale, aussi sincère soit-elle. Ici, nous constatons qu'il n'est pas venu pour nous dire comment nous sauver nous-mêmes, mais pour nous sauver par lui-même. Il est venu pour mourir, pour verser son sang, pour boire la coupe de la malédiction et de la punition, de telle sorte que nous puissions lever la coupe, cette coupe de la bénédiction et de l'amour. Oui, chers amis, le caractère central de la mort de Jésus est un élément essentiel pour comprendre les évangiles. Un autre élément important est la signification et le but de cette mort. C'est son aspect substitutif. Car en choisissant d'utiliser les jarres qui ont été destinées au rituel, Jésus signale une vérité que la lettre aux Hébreux expose de façon détaillée par son œuvre. Il accomplit le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Le tabernacle, puis le temple, le voile, la pièce intérieure appelée lieu très saint, car au cœur de tout ce système se trouvait le sacrifice sanglant. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce que je suis un pécheur et que le péché doit être puni. Quelque chose doit donc expier. C'est évidemment mon péché. Quelque chose, quelqu'un doit donc mourir à ma place pour mon péché. Au fil des siècles et des animaux qui ont été égorgés, la question pouvait se poser, comment un agneau peut-il prendre la place d'un homme? Or, en voyant Jésus, Jean-Baptiste, rappelez-vous, a déclaré, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Autrement dit, il est conscient que tous les petits agneaux n'ont pas pu effacer les péchés. Ils orientaient les regards vers l'agneau vraiment innocent, absolument sans tache, qui lui pouvait le faire, c'est-à-dire Jésus. Oui, Jésus-Christ est venu pour mourir à notre place, à ma place, et prendre notre punition, ma punition. Beaucoup répondent à cela, « Oh, ça c'est affreux, vous nous ramenez au Dieu sanguinaire de l'Antiquité. Est-ce vraiment le genre de choses dont parle la Sainte Bible? À notre époque, parler de Jésus-Christ venu sur la terre pour mourir et mentionner la colère de Dieu et assimiler a priori à une religion primitive de plus, avec ses massacres et avec ses sacrifices. Mais ça, c'est très mal comprendre l'Évangile. Si Jésus-Christ est vraiment celui qu'il prétend être, c'est-à-dire le Créateur de l'univers, qui s'est incarné, alors celui qui est sur la croix est en fait Dieu lui-même venu sur la terre et payant lui-même le prix le plus élevé. Il ne nous fait rien payer. C'est lui qui règle la dette. Certains ont appelé cela l'autosubstitution de Dieu. Cela vous paraît-il par trop illogique? Comparez-le à votre propre expérience du pardon. Si quelqu'un casse une de vos lampes en la faisant tomber et dit « Je suis désolé, laisse-moi te rembourser, laisse-moi la remplacer. » C'est vous qui choisissez votre manière de réagir. Vous pouvez par exemple répondre « Oui, merci » et lui demander de vous dédommager, ou bien vous pouvez répliquer « Oublie ça !» et de lui pardonner. Cependant, même si vous lui pardonnez, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Vous devez soit remplacer la lampe, soit vous en passer. En d'autres termes, il faut que quelqu'un paye, et c'est soit vous, soit l'autre. La dette, elle ne s'évapore pas simplement. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Si vous disposez de grands moyens, il peut être facile de dire « Ne t'en fais pas, ce n'est rien. » Mais si vous n'en avez pas beaucoup et que la lampe était par exemple un héritage qui a été transmis de génération en génération dans votre famille, il peut être beaucoup plus difficile de réagir ainsi. Poursuivons un peu la réflexion. Si quelqu'un nuit à votre réputation de façon injuste, que faites-vous? Une réaction possible consiste à ruiner à votre tour sa réputation œil pour œil, dent pour dent. Autrement dit, vous pouvez le faire payer, mais vous pouvez aussi lui pardonner et ainsi absorber cette dette. Dans tout cela, nous reflétons en quelque sorte ce qui se passe avec Dieu. Étant saint et juste, Dieu ne peut pas simplement dire en nous regardant « Voyez comment vous faites du mal les uns aux autres, détruisez ma création et vous détruisez les uns les autres, comme actuellement dans certains pays, des bombardements terribles, voire même des hôpitaux qui sont bombardés ou des innocents sont tués. Je vais simplement oublier tout cela. Il ne peut pas simplement faire comme si cette dette n'existait pas. Et ce n'est pas parce qu'il ne nous aimerait pas assez. En fait, c'est bel et bien l'inverse. Dieu est tellement saint qu'il devait se faire homme en Jésus et mourir pour payer la dette. Mais il nous aime tellement qu'il était heureux de venir mourir pour nous. Chers amis, un sacrifice substitutif est-il vraiment choquant? Est-il vraiment mauvais dans son principe? Eh bien, pas selon moi. Non, il n'y a pas d'histoire plus touchante que celle d'une personne qui est prête à abandonner un élément d'une importance vitale pour le bien-être d'une autre personne. Il n'y a pas de joie plus forte vite que de savoir que quelqu'un s'est sacrifié pour vous. Dans le fameux conte de deux cités, Sidney Carton et Charles Darnay aiment la même femme. Ils aiment la même femme. Mais c'est Charles qu'elle épouse. Or, vers la fin du récit, ce dernier est arrêté et il est enfermé dans un donjon en vue de son exécution. Or, ce mari, il est père, il a des enfants. Il doit donc mourir le lendemain. Or, Sidney, qui lui ressemble beaucoup, se faufile dans la prison, assomme cet ancien rival, demande à ses amis de l'amener en sécurité, il enfile ses vêtements et il reste là pour mourir à sa place. Un peu plus tard, une ouvrière qui est aussi emprisonnée au même endroit et qui attend d'être guillotinée. Elle s'avance vers celui qu'elle croit être Charles et lui demande de la réconforter. Or, soudain, elle se rend compte que ce n'est pas Charles. Les yeux ronds, elle murmure : Comment ? Comment ? Vous allez mourir à sa place ? Et lui, faisant signe de se taire, il précise, c'est pour sa femme et pour ses enfants. Alléluia. Elle est réchauffée et fortifiée contre la mort par la seule idée de ce sacrifice substitutif qui n'est même pas pour elle. Quelle transformation connaîtriez-vous si vous arrivez à croire que Jésus-Christ a agi ainsi pour vous et pour moi personnellement? C'est ce qu'il est venu apporter à chacun d'entre nous, et c'est de cette manière qu'il est venu pour apporter par un sacrifice substitutif visant non seulement à nous libérer de la culpabilité, mais à nous faire tomber dans ses bras à la fin des temps pour que nous soyons son épouse de telle sorte qu'il puisse nous aimer et qu'il puisse nous rendre parfaits. Permettez-moi de terminer cette étude par deux réflexions pratiques. Premièrement, chaque fois que Dieu choisit une métaphore pour nous aider à mieux le voir, elle nous montre aussi comment il nous voit. S'il est comme notre époux, cela signifie qu'il doit prendre beaucoup de plaisir en nous quand nous nous donnons à Jésus par la foi. Chaque fois que Dieu choisit une image pour se représenter lui-même, il nous révèle quelque chose à propos de nous. Savez-vous à quoi ressemble la mariée aux yeux de son futur époux lorsque elle avance dans l'allée? Eh bien, elle porte la tenue et les accessoires les plus magnifiques, et lorsque il pose les yeux sur elle, il est absolument conquis par elle, il voudrait lui offrir le monde. comment Jésus-Christ ose-t-il utiliser une métaphore telle que celle-là, qui évoque une expérience humaine si forte? Se pourrait-il qu'il aime les siens à ce point-là, qu'il prenne autant plaisir en nous? Oui, oui, c'est bel et bien le cas. Quel impact cela aurait-il sur votre vie si à chaque instant vous en aviez pleinement conscience? Chers amis, Jésus goûtait à la tristesse et il goûtait à la tristesse à venir afin que aujourd'hui, vous et moi, qui croyons en lui, nous puissions au milieu de toute la tristesse de ce monde goûter à la joie à venir. La certitude de la joie à venir, de la fête de l'agneau, ça c'est une source d'une grande stabilité pour nous. Chaque fois que nous prenons part au repas du Seigneur, par la foi à la Sainte Cène, nous avons un avant-goût de ce festin incroyable. Même si en ce moment, nous sommes dans la peine, nous pouvons savourer la joie à venir. Il n'y a qu'un seul amour, oui, il n'y a qu'un seul festin, un seul élément qui peut vraiment donner à notre cœur tout ce dont il a besoin. Et tout cela vous attend, vous et moi. Posséder cette certitude-là vous permettra, mes chers amis, d'affronter toutes les difficultés. Amen. Chers amis, nous n'avons plus le temps de prier ensemble. Je voudrais simplement vous demander de réécouter certains passages de cette étude, de noter certains points, ensuite de dire quelques mots seulement de prière avec votre cœur, votre âme et votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse, car il vous aime. À demain matin, pour la suite de cette série, Dieu voulant. Au revoir, mes très chers amis.